Seigneur, je te prie pour nos oreilles et qu'on puisse avoir les oreilles ouvertes à ce que tu veux dire, à ce que tu veux nous transmettre comme message et qu'on puisse ne pas être des auditeurs oublieux. Tu dis que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendre, entendent. Et Seigneur, on veut entendre ce matin. Et merci déjà pour tout ce que tu as dit et on veut simplement être à l'écoute encore de ce que tu veux nous dire. Merci mon Dieu. Amen. Et donc vous savez, comme ça a été annoncé, on est dans une semaine de jeûne et prière qui arrive. Et Olivier a déjà parlé en janvier, a fait une super prêche sur le jeûne et prière. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter ou de la réécouter. En tout cas, c'était vraiment très clair sur pourquoi jeûner quand on cherche une orientation dans sa vie, les différentes formes de jeûne, le fait qu'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de bonne forme aussi de jeûner, mais que Dieu nous donne cette liberté de choisir la forme de jeûne qu'on veut faire. Juste d'ailleurs, moi je pensais hier, on parle de jeûne, mais je pense qu'à l'époque, la nourriture avait une importance plus importante qu'aujourd'hui. Ne serait-ce que le temps qu'on prenait pour faire la nourriture, la convivialité qu'il y avait derrière, il y a tout ce côté aussi oriental où la nourriture est vraiment importante. Elle est encore aujourd'hui, mais je pense qu'il n'y a pas cette importance que dans la Bible, c'est donné à la nourriture. Et donc, je pense qu'on peut peut-être aussi jeûner d'autres choses. Ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être de la télé, ça peut être quel que soit ce qui nous tient à cœur. Est-ce que Dieu nous mettra sur le cœur? Donc le thème, le verset un petit peu clé de la semaine qui a été choisi, c'est celui-ci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et voilà, donc ça c'est le thème de cette semaine de jeûne et prière. Moi, j'aime bien toujours m'inspirer un petit peu aussi de ce que je vis ou de ce que je vois autour de moi. Et donc, moi, mais avec mes frères, on est des grands fans de poules. On a tous des poulaillers, enfin, c'est de génération en génération. C'est une institution à la maison. Et là, en ce moment, dans l'actu du poulailler, en fait, les poules, elles ne sont pas au plus beau. Vous voyez, elles ont en fait, elles passent par une période de mue. Donc, elles ne sont pas belles. Elles sont déplumées, donc elles perdent leur plume et voilà, elles sont vraiment pas du tout dans leur plus bel appareil. Et si on regarde de plus près, en fait, il y a plein de bourgeons qui recouvrent leur corps. Et en fait, ces bourgeons, c'est les futures plumes, les nouvelles plumes qui arrivent. Voilà. Donc, la majorité des oiseaux passent par ce phénomène en ce moment. Et juste tout à l'heure, là, j'étais au parc. Et il y a le pont, vous savez, dans le parc, qui est magnifique. Puis là, en fait, il n'est pas... Donc le pont, vous voyez, on connaît la beauté. Il est réputé pour voilà, un peu son orgueil et le fait de... Quand il fait sa roue et tout ça. Et là, en fait, il est plutôt avec... sa queue est tombée. Et en fait, sa gloire, quelque part, aussi est tombée. Et donc, il est dans une phase où il est un peu pas très beau, quoi. Vous voyez. Donc... Voilà, c'est le moment où c'est pas très glorieux. Donc, pareil, les poules, elles sont pas dans leur plus beau moment. Mais c'est une étape qui est importante pour avoir le nouveau plumage. Vous voyez, c'est aussi une étape où elles sont plus vulnérables. Elles arrêtent de pondre en général à ce moment-là. Voilà, elles refont tout à neuf, quoi. Vous voyez, elles partent sur de nouvelles bases. Et c'est assez hallucinant. Des fois, il y a des vieilles poules qui sont franchement pas très belles. Et après cette phase, elles sont mais juste comme toutes neuves, quoi. On dirait des jeunes poules. Vous voyez, c'est assez hallucinant. Et en préparant ce culte, j'avais vraiment ce mot, le mot nouveau. Et ça a été annoncé, on est dans une phase de transition. Et il y a des choses nouvelles qui se mettent en place. Il y a des choses anciennes qui doivent s'arrêter, des façons de faire qui vont s'arrêter, des personnes peut-être qui vont aussi faire autre chose. Enfin voilà, il y a des changements qui sont là, mais ces changements ils sont bons et ils sont pour quelque chose de plus beau après. Et dans la Bible, il y a cette période de changement aussi. C'est les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Il y a un temps où les Israélites ont mangé la manne tous les jours. C'était leur tous les jours, ils devaient se lever pour aller chercher cette manne avant qu'elle ne fonde. Et voilà, c'était leur quotidien pendant 40 ans. Enfin, 40 ans, c'est pas rien. D'accord? 40 ans de manne. Et du jour au lendemain, dès que les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, ils mangèrent du blé du pays, le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne, c'est ça. Le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. C'était fini. La manne, c'est fini. Okay? Et il y a comme ça des moments où, dans la vie, il y a des choses qui s'arrêtent. Et il y a d'autres choses qui commencent. Là, ils ont mangé du grain. Vous voyez, ils ont arrêté la manne, ils ont passé à un autre menu. Et c'était peut-être, je pense, plus intéressant pour eux, plus varié aussi. Donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu nous amène à quelque part, c'est pour le mieux, c'est pas pour nous faire des choix qui sont un petit peu stupides, mais non, c'est pour nous amener vers quelque chose de mieux. Et moi, je suis dans l'expectative de voir ce que Dieu va faire. Hop. Et cet été, vous savez, Dieu nous parle parfois par, encore une fois, un verset qu'on a lu plein de fois. Et d'un coup, on va le lire, et c'est comme s'il y a un mot qui va ressortir du verset, et on a une nouvelle révélation de quelque chose qu'on a lu plein de fois. D'un coup, pop, le Saint-Esprit nous parle, et on a une nouvelle révélation. Et moi, cet été, il y a vraiment une révélation que j'ai eu la grâce de vivre. Excusez-moi, je suis perdu. C'est le fait de mourir à moi-même, en fait, pas de mourir à moi-même, c'est le fait de dire je suis mort avec Christ. Vous voyez? Et je vais vous donner des versets. Donc, notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Voilà. Et en fait, c'est comme si. Ah, il n'est pas content, le bébé. C'est comme s'il a envie de vivre. C'est comme si, et je vais vous le faire vraiment assez physiquement, mais j'avais réalisé que, en fait, je suis mort. Donc, si je suis mort, je suis mort. Voilà. OK? Jonathan, il bouge plus. Il n'y a plus rien. Je suis mort. Mort de mort, quoi. On peut pas. On est mort, quoi. OK? Et en fait, imaginez maintenant si je suis mort. Là, je suis au sol. Et il y a le Covid qui arrive. À votre avis, quelle est ma réaction? Bah rien, je suis mort. Ok. Et est-ce que vous pensez que je suis encore en mode, je dois faire des efforts pour pas pécher? Non, je suis mort. En fait, j'ai plus d'efforts à faire. Je suis déjà mort. Est-ce que je dois faire des efforts par rapport à je sais pas, faire attention à pas tomber dans l'idolâtrie de l'argent, tout ça? Non, je suis mort. Et en fait, c'est comme si cette révélation est venue vraiment s'imposer à moi. Je suis mort au péché. Vous voyez, on est mort et ressuscité avec Christ. Et vous voyez, ces poules, elles perdent leurs plumes. Elles vont pas les chercher après. Il les recoller. Non, non, c'est fini. En fait, c'est mort. Vous voyez, les plumes sont tombées. Et il y a d'autres choses qui poussent. Et en fait, c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Nous sommes morts au péché et ressusciter avec Christ. Et ça, vous pouvez le faire avec tous vos combats. Vous voyez, si c'est une maladie, ben en fait, cette maladie, elle est morte, elle a été payée, elle a été portée par Jésus à la croix, elle a été vaincue à la croix, et on est ressuscité avec Christ. Sincèrement, c'est des choses tellement basiques et tellement évidentes, mais c'est comme si d'un coup, ça prenait vraiment du sens pour moi. Vous voyez, on est mort et ressuscité avec Christ. Voilà. Je reprends mon fil, excusez-moi. Le truc quand même, c'est que j'ai beau être mort avec Christ, je vois bien qu'il y a des choses. Enfin, si Christ vit en moi plutôt, et eh ben, ce devrait être. je m'approche de toi et tu es guéri, Nicolas. Les possédés, les esprits fuient quand j'avance, ainsi de suite. Je dis les paroles inspirées au bon moment, au bon endroit. Vous voyez, ça, c'est Jésus qui vit en moi. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Vous voyez, y a en fait une lutte en nous entre la chair, ce qu'on ressent, d'accord, et l'esprit qui vit en nous, l'esprit de Jésus-Christ qui, lui, est ressuscité. Et je reviens rapidement au thème de la semaine, qui était ce verset « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Vous voyez, ça c'est, quand je disais Jésus qui marche, voilà, je l'exauce des cieux, donc toutes nos prières sont exaucées, je pardonne son péché et je guéris son pays. Ça c'est le but vraiment suprême, mais il y a un prérequis que vraiment le Seigneur m'a demandé de vous partager ce matin, c'est s'humilier. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, vous voyez, c'est, alors déjà Dieu il dit mon peuple, et je voulais encourager ce matin quelqu'un à dire oui, tu fais partie du peuple de Dieu. Tu fais partie du peuple de Dieu. Et voilà, c'est si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Et voilà, c'est, on rentre dans une semaine de jeûne et prière, et c'est un appel solennel pour moi à s'humilier. On a le contexte du verset, je ne sais pas si vous le connaissez, mais ce verset il est tiré de 2 Chroniques 7. Et en fait, Salomon a bâti un temple, il a dédicacé, et la nuit, l'Éternel apparaît à Salomon, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit, et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu, donc le temple, comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, ainsi de suite. Donc vous voyez, quand le ciel est fermé, quand il n'y a plus de pluie, est-ce que ce n'est pas ce qu'on a vécu cet été, une période de sécheresse, mais tellement profonde. Vous voyez, on sentait, moi j'avais partagé des arbres qui meurent, on voit que c'est des vieux arbres, ce n'est pas des arbres, des petits arbres, non, c'est des arbres qui ont des 30, 40 ans et qui sont secs. Vous voyez, donc il y a une sécheresse dans notre pays. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, vous savez, les sauterelles, c'est ce qui vient manger les récoltes. Et on est quand même, qu'on le veuille ou non, dès qu'on allume la télé, on est dans une crise économique en France. Okay, on est dans une crise politique. Les premiers ministres qui défilent, ainsi de suite. Vous voyez, on voit bien qu'il y a, on est dans un problème. Il y a des problèmes. Et comment ne pas penser à tous les malades parmi nous ? D'accord, on parle de peste parmi mon peuple. Donc, il y a des choses qui se passent dans notre pays, sécheresse, des difficultés économiques, ainsi de suite, des maladies. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire ? Si mon peuple s'humilie. Voilà, on doit s'humilier. C'est nous, le Seigneur ne demande pas aux Français de s'humilier, il demande à son peuple, d'accord ? Celui qui lui appartient. C'est nous, Élodie parlait la semaine passée, que nous sommes des sacrificateurs et qu'on est là pour... porter les péchés des autres, les présenter et demander pardon à Dieu pour les péchés de notre pays. Et vraiment, on est là pour se placer devant Dieu et s'humilier. Et s'humilier, la définition, c'est se rabaisser soi-même, se soumettre à Dieu. Et il y a quelqu'un dans la Bible, donc voilà, il y a ce verset, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Donc, dans ce début de semaine de jeûne, j'avais vraiment sur le cœur qu'on puisse s'humilier. Et il y en a un qui ne s'est pas humilié dans la Bible, c'est Pharaon, vous savez. Et Moïse et Aaron allèrent vers le Pharaon et lui dirent, « Ainsi par l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi ?» Okay ? Et Pharaon, il était dur, il était endurci. Il ne voulait pas plier devant Dieu. Et ce matin, que nous, on ne soit pas comme ce Pharaon, qui était dur et qui ne voulait pas plier devant Dieu et se soumettre à Dieu, se rabaisser nous-mêmes devant Dieu, dire Seigneur, enfin Dieu, oui, tu es le Seigneur de ma vie. Alors vous allez dire, je ne vois pas vraiment en quoi je ne suis pas soumis. Et moi, ça m'est déjà arrivé où je sentais que Dieu voulait me parler par rapport à l'orgueil, Mais je ne voyais pas en quoi j'étais orgueilleux. Alors j'ai prié, prié, je disais, mais Seigneur, mais en quoi je suis orgueilleux? Dans quel domaine je suis orgueilleux? Et le Seigneur, c'est un Dieu qui parle, il m'a répondu. Okay? Donc je vous encourage, peut-être, là je vais vous donner quelques pistes, mais peut-être que Dieu vous apportera ailleurs. Et là, c'est assez fou parce que donc c'est Elo qui a dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. On a eu plusieurs chants qui disaient, je vis pour ta gloire, nous te proclamons roi en ce lieu. Il y a aussi Héloïse qui a parlé du fait qu'on s'habitue souvent aux bienfaits de Dieu et qu'on les prend, on les mesure plus vraiment, en fait, on se rend plus vraiment compte des miracles. Voyez? Et le premier point que je voudrais aborder, en quoi nous ne sommes pas soumis à Dieu, c'est que en fait, Dieu n'est plus le centre de nos préoccupations. C'est la première marque d'insoumission, en fait, c'est que c'est plus lui la priorité. Voyez, dans notre vie, la priorité, elle est ailleurs. Alors, je ne dis pas qu'on l'a abandonné, parce qu'en fait, on a quand même quelques petits rites. J'ose utiliser ce mot, une petite prière avant de manger, avant de se coucher. Ça peut être le verset du jour. Hop, je lis le verset du jour. Seigneur, merci, oui, tu m'as parlé là. Clac, et hop, on est parti pour la journée. D'accord? Voilà. Et en fait, Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Et c'est pas compliqué, en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est tout. D'accord? C'est pas compliqué, c'est pas difficile. Il veut tout de nous. Il n'y a pas de demi-mesure. Il veut tout. Et ce qui est beau, c'est qu'il veut pas tout pour faire de nous des esclaves. C'est pas en mode donne-moi tout et puis moi je te donne rien. Non, pas du tout. Au contraire, s'il veut qu'on lui donne tout, c'est parce que lui, il a des projets pour notre vie et qu'il veut nous amener dans son projet où chacun a un rôle particulier. Et tant que nous, on ne donne pas tout, et bien en fait, on ne rentre pas pleinement dans ce que Dieu a pour notre vie. Vous voyez? On le restreint quelque part, même si on ne peut pas restreindre Dieu, mais on ne rentre pas dans notre plein potentiel de tout ce que Dieu a placé pour nous. Et on va dire, ben, c'est ma vie, ma femme, mes enfants, mon mari, ma maison, mon travail. Quand Dieu nous donne quelque chose, attention à ne pas le transformer en Dieu. Et là, c'est là que j'ai rigolé, parce que vous savez, il y a cette histoire dont Héloïse a parlé tout à l'heure, du veau d'or. Les Israélites, quand ils sont sortis du pays, les Égyptiens leur ont donné de l'or. Vous voyez? Donc c'est une bénédiction, ils sont partis avec des richesses, enfin ils ont pillé le pays. Donc ils ont pris tout l'or des Égyptiens, voilà, ils les ont pillés quoi, littéralement. Et en fait, qu'est-ce que eux ils ont fait de cet or? Le veau d'or. Voilà. Donc Héloïse en a parlé tout à l'heure, il y a eux, ils ont pris l'or que Dieu leur a donné, que les Égyptiens leur ont donné, ils en ont fait un veau d'or. Vous voyez? Et des fois, eh ben, ce que Dieu nous donne, on en fait un veau d'or. Ça peut être notre femme, ça peut être. Bah du coup, non, je sais pas, parce que ma femme, elle est malade, je sais n'importe quoi, hein, franchement, je n'ai pas d'idée là, juste maintenant, mais ça peut être nos enfants. Vous voyez, il y a aussi des fois, ben, Dieu donne des enfants, il y a des gens qui ont eu la galère pour avoir des enfants, et d'un coup, ils ont des enfants, et d'un coup, ils ne viennent plus à l'église, vous voyez? Parce que, ben, en fait, ils sont centrés, leur nouveau Dieu, c'est leur enfant, vous voyez? Ça peut être aussi le travail. Je vais tout donner pour mon travail. Vous voyez, ça devient mon veau d'or à moi. Ça peut être même le service dans l'église. On peut passer à côté de la volonté de Dieu en pensant servir Dieu. Vous voyez, c'est dans l'Apocalypse, il dit retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Mais on a servi pour toi, on a fait plein de choses pour toi. Non, non, mais moi, je ne vous connais pas, en fait. Vous voyez, il y a une notion d'intimité avec Dieu qui est juste prépondérante. Dieu veut tout. Voilà, ce n'est pas compliqué. Donc, si ce n'est pas tout que tu as donné, ben voilà, replace-le au bon endroit. Replaçons-le. Attention, tout ce que je le dis d'abord pour moi. C'est facile de dire aux autres, mais. Voilà, c'est avant tout à moi que Dieu parle. Vous savez, il y a cette histoire du bon samaritain, où voilà, le samaritain qui s'est fait taper par des voleurs, et puis ben, c'est pas le samaritain qui s'est fait taper, pardon, c'est l'homme qui s'est fait taper, pardon. Et puis il y a les hommes religieux qui vont passer et qui vont passer outre, vous voyez, ils vont le laisser au bord de la route. Et ces hommes religieux, je me dis, ben, peut-être qu'ils avaient. Une formation, un rendez-vous de prière, ils avaient peut-être, je ne sais pas moi, un meeting sur le Saint-Esprit, oui, peu importe, Mais ils sont passés à côté de l'homme qui était juste sur leur chemin. Vous voyez, tellement occupés par leur service pour Dieu qu'en fait, ils sont passés à côté de cet homme qui avait été blessé et qui était juste là devant eux. Ils ont fermé les yeux, ils sont passés à autre chose. Ils étaient dans leur service, oui, c'est sûr. Et ils auront une récompense pour ça, mais ils sont passés à côté de l'homme qui était juste devant eux. Vous voyez, et voilà, c'est un appel à attention, ne soyons pas, ne faisons pas des veaux d'or, quel que soit le veau d'or qu'on fait, mais replaçons Dieu au centre, soumettons-nous à Dieu et que Dieu soit notre seule préoccupation. Sortons de notre routine, notre petit Amen, Alléluia et Seigneur te bénit, mais sortons de notre religiosité qui nous tue, en fait, hein, parce que si on ne décide pas de dire ben, Seigneur, parle-nous, on veut quelque chose de nouveau, on en a marre de ces plumes qui nous collent à la peau, on veut quelque chose de nouveau. Si on ne fait pas ce travail-là, on va rester dans nos rites, dans nos pratiques, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut quelque chose de nouveau. Dieu veut que notre cœur soit nouveau, nos intentions soient nouvelles, un nouvel élan pour lui. Alors moi je dis Seigneur, pardonne-moi d'avoir été tellement occupé parfois que j'ai laissé mon prochain au bord de la route. Et il y a ce verset qui dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et je ne dis pas qu'on ne le cherche pas, mais je pense que on le cherche pas à fond. Vous voyez? Comme quelque chose qui est tellement important, comme un trésor, quand on sait qu'il y a un trésor à quelque part. Oui, par exemple, moi, un de mes chantiers, j'avais minci, et en fait, en faisant juste ça, clac, mon alliance est tombée. Mon alliance est tombée, voilà, au milieu d'herbes et tout ça. Et je fais pétard, mais enfin, l'alliance, on n'en a qu'une, quoi. On n'a pas envie de la perdre. On peut la changer, c'est sûr, mais ce n'est pas celle qu'on a enfilée le jour de notre mariage, vous voyez. Donc, ben, je me suis mis à chercher mon alliance et j'ai arrêté mon travail. J'étais à fond. Je m'en fichais. Enfin, qui pouvait me regarder, tout ça, je m'en fichais. Moi, j'étais en train de chercher mon alliance jusqu'à ce que je la trouve. Je l'ai retrouvée. Mais voilà, c'est ça de chercher Dieu de tout votre cœur. On va pas passer à autre chose tant qu'on n'a pas trouvé ce qu'on cherche. Vous voyez, on va persévérer jusqu'à ce qu'on trouve. Vous voyez, ça veut dire que on a des choses qui nous sont présentées dans la Bible, des miracles. Héloïse parlait de miracles tout à l'heure, des exemples de vie qui sont nombreux dans la Bible. Et moi, je veux le vivre et je veux chercher jusqu'à ce que je trouve. Ce que Dieu m'a promis, les promesses que Dieu nous a données. Voilà, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Voilà, ben, est-ce que je le vis? Non. Donc, ben, continue à chercher, mon gars. Ok? Et Jésus vient chercher une épouse qui est sans tache, qui s'est préparée. D'ailleurs, c'est écrit sans tache ni ride. Je me suis dit, ben, les rides, c'est un signe de vieillesse. Ok? Et ben, si Jésus, il vient pas chercher quelque chose qui est vieux, en fait, vous voyez? Il ne vient pas chercher des habitudes qu'on a depuis 1000 ans. Non, ce qu'il veut, c'est une épouse sans tache ni ride. Jésus, il veut une jeune, clairement, d'accord? Il n'en veut pas des habitudes anciennes. Non, non, clairement, il n'en veut pas. Il veut que tu sois une jeune fille. Voilà. Et en fait, cette épouse, elle n'est pas satisfaite de son état. Elle se prépare, elle refuse de tomber justement dans la religiosité. Elle refuse de se dire, OK, là c'est bon, je suis arrivé. Non, elle n'est pas arrivée. Tant qu'on n'est pas arrivé, on continue à chercher, on continue. Et c'est ça que le Seigneur cherche dans notre cœur, qu'on s'humilie et qu'on dit, Seigneur, j'y arrive pas. Voilà, là, je ne suis pas au carré par rapport à ça. Viens m'aider, viens me secourir. J'ai tel péché dans ma vie. Seigneur, viens me secourir, viens me libérer, viens à mon secours. C'est le Seigneur qui fait l'œuvre, c'est pas toi qui fais l'œuvre. Mais le Seigneur, il attend qu'on crie à lui et qu'on le cherche véritablement. Pas qu'on le cherchote. Vous voyez, c'est pas. Moi, ce que c'est. Non, c'est vraiment. Jusqu'à ce que je l'ai trouvé, vous voyez? J'ai trouvé dans le cantique des cantiques, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Voyez, elle a cherché, je l'ai saisi, je ne le lâcherai pas. Voyez, et voilà, on doit avoir cette attitude dans cette recherche de si mon peuple s'humilie, replaçons Dieu au centre et cherchons-le véritablement. La deuxième, oula, je vois qu'il est déjà midi. La deuxième chose, c'est qu'on ne fait pas ce qu'il nous demande. En quoi on n'est pas humble, c'est que souvent, on ne fait pas ce qu'il nous demande. Ce qu'il nous demande, c'est toujours des choses très simples. Et je ne vais pas du coup rentrer dans trop de détails, mais il y a « aimez-vous les uns les autres », « pardonnez-vous », « confessez vos péchés les uns aux autres », « priez les uns pour les autres », « priez pour les autorités ». Enfin, il y a plein de choses que Dieu nous demande, « honorez vos parents », ainsi de suite. Et en fait, souvent, nous, on ne le fait plus. Et pourtant, c'est comme les plumes qui tombent. C'est des choses qui sont nécessaires, qu'il faut qu'on fasse pour que Dieu nous renouvelle. Et c'est humiliant de demander de l'aide à quelqu'un, de lui dire « écoute, là, j'arrive pas. J'ai besoin que tu m'aides. J'aimerais bien que tu pries pour moi. » Vous voyez, c'est humiliant de dire bah, « ouais, je galère avec tel péché. Je viens me confesser. » C'est pas facile, en fait, hein, parce que nous, on aime bien montrer à tout le monde qu'on arrive, on est super bien, quoi. Franchement, on est au top spirituellement. On est « waouh, le ciel dans ma vie, je le vois tous les jours. Quand je me lève, le Saint-Esprit me parle, me conduit. Je sais où je vais. » Enfin, vous voyez, ça... On aime bien faire croire, mais la vérité, c'est qu'il y a bien des choses en nous qui doivent être réformées et il y a bien des choses qu'on devrait confesser. Et pour confesser, en fait, on doit aller voir quelqu'un d'autre et dire voilà. Et l'autre ne nous accueille pas en nous jugeant. Ah ben bravo, ouais, non, c'est pas ça. Mais c'est plutôt, il nous accueille avec amour. Mais c'est, voilà, c'est sain, les amis. Je voudrais vous inviter à vous confesser. Peut-être que là, dans cette semaine, c'est un bon moment de se dire ben, Seigneur, est-ce que j'ai quelque chose à confesser ? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas et que tu veux que j'aille confesser ? Est-ce que je dois aller trouver quelqu'un ? Et si je dois aller trouver quelqu'un, qui ? Parce qu'on ne va pas non plus aller raconter notre vie à n'importe qui, d'accord ? Mais qui ? Et le Saint-Esprit, il vous dira qui. Il y a ce verset qui dit, qu'on a lu tout à l'heure, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève. » On peut aussi avouer qu'on a peur. Il y a des situations qui nous font peur, qui nous dépassent. On ne sait pas quoi faire. Avouer qu'on se sent coupable d'avoir fait telle ou telle chose, d'avoir dit telle ou telle chose. Voilà, c'est tout ça, on doit l'avouer à Dieu, on doit aussi le confesser, c'est saint. C'est quand la dernière fois que tu t'es confessé, j'ai envie de dire, poser cette question. Est-ce que tu te rappelles ? Voilà, et ben, voilà, je t'invite, peut-être dans cette semaine, ou pas, mais peut-être que dans cette semaine, tu vas avoir une envie de te confesser et de trouver quelqu'un à qui te confesser. Ben, je t'encourage à le faire, parce que c'est saint. On ne fait pas ce que Dieu nous demande à nous en spécifique aussi. Des fois, Dieu nous. Donc, il y a des demandes générales et puis il y a des demandes spécifiques sur une vie. Dieu dit, toi, je veux que tu fasses ça. Et des fois, vous savez, quand Jonas, Dieu lui dit, mais va parler à Ninive. Et lui, il dit, oh, pff, non, j'ai pas envie. Oh non, surtout pas Ninive, quoi. Voilà. Eh bien, Dieu nous demande des choses spécifiques. Il faut qu'on soit obéissant. Il y a plein de choses hein, que. Il y a celui qui cherche, vous me chercherez, vous me trouverez, il y a le paresseux qui a des désirs qu'il ne peut satisfaire parce qu'en fait il est paresseux. Voilà, si on veut vraiment, on va l'avoir, okay, parce que Dieu dit cherchez et vous trouverez si vous cherchez de tout votre cœur. D'accord ? Il y avait cet ordre aussi dans ce que Dieu nous demande. J'ai toujours ce souvenir de Kate Green. Vous savez qu'il disait, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un chanteur des années passées et qui était enflammé. Et il disait à ceux qui disent, mais je ne sais pas ce que Dieu veut faire pour, je ne sais pas à quoi Dieu m'appelle, je ne sais pas. Mais Dieu t'appelle, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'un autre appel en fait. Allez, allez. Vous voyez, il criait, mais allez, allez, go, go. Allez par tout le monde. Voilà, c'est ça l'appel que Dieu met sur ta vie. D'accord ? Alors, effectivement, l'appel, il prend des formes différentes, ainsi de suite. Mais allez, OK ? Allez par tout le monde. Je me le dis à moi, encore une fois. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce verset, il est assez fort aussi. C'est Samuel qui parle au roi Saül. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices ? Alors là, on rentre dans une semaine de jeûne et prière et j'aimerais vraiment vous dire, vous mettre à l'aise. Ce n'est pas le fait que tu ne manges pas pendant 3 jours, 10 jours ou 20 jours ou même ça, c'est OK, le Seigneur le voit, mais en fait, ça dispose ton cœur à être à l'écoute de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui va incliner le cœur de Dieu. Ce qui incline le cœur de Dieu, c'est ton cœur. C'est ta disposition de cœur. Donc, c'est pour ça que quand je dis faites vraiment ce que vous avez à cœur comme forme de jeûne, parce que Dieu, c'est la forme de jeûne qui va nous mettre vraiment en disposition à être à l'écoute de Dieu. Et par rapport à ce qu'il nous demande, donc de se soumettre par rapport à ce que Dieu nous demande, on a besoin de reconnaître qu'on n'est pas dans le coup, en fait, hein. Je vais être assez trash, mais on n'est pas dans le coup. On fait des choses, on a de l'amour, mais trop peu d'amour. On fait des choses, mais qui ne nous coûtent pas vraiment. Enfin, vous voyez, c'est pas notre essentiel, comme cette dame qui a mis dans l'urne, elle a mis l'essentiel, tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous voyez, c'est ça l'exemple que Dieu y donne, justement par rapport à ceux qui jeûnent et tout ça, elle, et qui donnent avec abondance. Non, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et quand est-ce que toi, tu t'es mis en galère, en fait? Tu dis, oh Peter, si je fais ça, comment je vais faire? Si je donne ça à Dieu, si je donne ce temps-là à Dieu, mais comment je vais pouvoir faire tout ce que j'ai à faire? Si je fais ci, comment est-ce que vraiment je vais y arriver? Vous voyez, le Seigneur, il a besoin qu'on mette de notre nécessaire. Ce n'est pas quelque chose qui est trop facile, trois pièces comme ça. Non, non, c'est notre nécessaire que Dieu y veut. J'arrête, j'avance vite parce que, voilà. Le dernier, c'est il faut qu'on se soumette à Dieu en ne restant pas dans notre péché. Vous savez, le péché nous écarte de Dieu. Et il y a ce verset qui dit le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous aussi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ça enveloppe si facilement tout le monde. Nous, c'est pas qu'il a pas dit qu'il vous enveloppe, hein, il a dit qu'il nous enveloppe. Ok? Et il y a un grand revivaliste justement qui disait que régulièrement, il prenait un temps pour s'humilier devant Dieu. Parce qu'en fait, il sentait que quand il ne le faisait pas, il n'était plus connecté. En fait, il perdait cette onction qui était sur lui. Et on a besoin, les amis, de nous humilier et de faire un check-up et de dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis par rapport au péché? D'accord? Et il y a des gros péchés, mais il y a aussi des petits péchés. Et Seigneur, pour lui, il n'y a pas de petit ou de gros, c'est le péché. D'accord? Et il y a ce verset qui dit celui qui avoue, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement, pardon, dans la crainte. Et cette crainte, c'est pas une crainte, une peur, c'est plutôt une vénération de Dieu, de dire ben moi je suis pécheur, le Seigneur lui il est saint. Comment c'est possible que cet être si saint puisse s'intéresser à moi? Et en même temps, il le fait, vraiment. Et un des péchés que je voulais juste aborder, c'est moi, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est le péché qui a amené le diable à devenir le diable, d'accord? Parce qu'il a voulu être égal à Dieu. Et voilà, ce péché, c'est un péché enfin, pour lequel Dieu m'a repris moi-même. Par rapport à l'orgueil, j'avais de l'orgueil dans mon cœur par rapport à des choses très précises. Et le Seigneur m'a demandé de demander pardon pour cet orgueil et d'arrêter en fait de me sentir supérieur. L'orgueil, c'est quand on se sent supérieur pour une raison ou pour une autre par rapport à quel que soit le domaine. Et vous savez, tous les hommes que Dieu a utilisés souvent sont passés par un temps d'abaissement, que ce soit David, que ce soit Joseph. Que ce soit Moïse, sont tous passés par un temps où ils ont dû s'abaisser. Ils ont été des grands hommes. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, mais il est devenu d'abord, il a dû fuir, il a été vivre chez les Philistins, il a tout perdu, enfin, tous les honneurs qu'il avait. Moïse, c'est pareil, il était prince d'Égypte, il a tout perdu avant de devenir ce leader dont Héloïse a parlé tout à l'heure, et pareil pour Joseph. Vous voyez, c'est des hommes, des exemples qui nous montrent que ben, on a besoin d'être à l'endroit où Dieu nous place. Et des fois, nous, on a envie d'aller plus vite. C'est là où je veux en venir. L'exemple suprême, c'est Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu. J'ai mis une autre traduction parce que je trouvais que c'était dur à comprendre. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, qui était Dieu, ne cherche pas à profiter du fait qu'il soit égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. D'accord ? Jésus, il s'est humilié. Il s'est abaissé. Et la chair a des désirs contraires à Dieu, à l'esprit, pardon. Et Jésus, lui, il était complètement soumis à l'esprit de Dieu. Il a attendu le go de Dieu. Vous voyez, quand il a dit à sa mère, « Mon heure n'est pas encore venue. Enfin, voilà, ne me demande pas de faire des choses, ce n'est pas encore mon temps. » Vous voyez ? Alors que je pense qu'il aurait très bien pu dire, « Ok, c'est bon, je suis là, t'inquiète, je vais gérer. Okay » Mais non, Jésus, il est resté dans l'humilité. Il est né dans une étable, dans une mangeoire. Il est né, il a vécu avec Joseph et Marie, qui étaient des gens pauvres. Okay ? Il aurait pu choisir de naître chez le roi de l'époque, vous voyez ? Non, il a choisi des gens pauvres. Il était humble, Jésus. Et il a attendu son heure. Des fois, Dieu nous dit qu'il va nous utiliser par rapport à quelque chose. Et en fait, nous, on est pressés. Et puis déjà, on le raconte à tout le monde. « Hey, c'est quoi, Dieu m'appelle à devenir le plus grand des prédicateurs ?» Ainsi de suite. Attends, mais déjà, sois là où tu es et attends le go de Dieu. Okay ? Dieu, il va, en son temps, te donner son go. Et c'est là que en fait, tu vas pouvoir vraiment être dans le bon timing, au bon endroit, au bon moment. Je suis obligé d'avancer très vite parce que c'est fini. Donc l'idée, c'est de faire mourir cette chair. Oui, il y a ce verset qui dit, je vais passer. Vous devez, par l'esprit, nous devons faire mourir les actions du corps. Et en fait, c'est pas facile parce que c'est voilà, c'est pas quelque chose qui est, on n'a pas forcément envie. Vous voyez, on est orgueilleux en fait dans notre nature même. Mais comme quand je suis mort tout à l'heure, vous voyez, est-ce que je suis fier de quelque chose quand je suis mort? Ben non, en fait, je suis mort en fait. Il n'y a plus de fierté à avoir. Et c'est ça l'état dans lequel on doit se trouver. On est mort à nous-mêmes et ressuscité avec Christ. C'est Jésus. Tout à l'heure, Sam, il a chanté « Son sang coule dans mes veines ». Vous voyez, voilà, le sang de Jésus coule dans nos veines. Et on doit être vivant pour Christ et mort à nous-mêmes. Je vais vite à la conclusion. Du coup, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Tout ce que je vous dis ce matin, c'est par amour. C'est pas pour vous dire, faites ci, faites ça, c'est bien, c'est pas bien. C'est juste que Dieu nous donne un rendez-vous cette semaine et nous demande de nous humilier et de nous placer sous sa main. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse entrer pleinement dans tout ce qu'il a prévu pour nous. Ce qu'il veut, c'est nous donner un plumage neuf, okay, des belles plumes. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit complètement renouvelé et qu'on sorte de cette semaine différent de comme on en est rentré. Et la première étape, et il y en aura d'autres parce que le verset n'est pas fini. Hein. Moi, j'ai juste utilisé le premier mot. Mais si mon peuple s'humilie. Il y a aussi ce verset de Josué, quand, juste avant de rentrer dans le pays, il dit « Sanctifiez-vous. » Ah, il est passé. « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Moi, j'ai envie de vous dire, le Seigneur, ça a été dit par Olivier tout à l'heure, le Seigneur va faire des prodiges au milieu de nous. Il va y avoir des guérisons, des grandes guérisons. Mais sanctifions-nous, les amis. On est dans une semaine où on est dans cette mue. On est là pour faire le point, pour nous humilier et prendre ce temps avec Dieu. Et Dieu, il n'attend pas qu'on performe, comme je disais tout à l'heure, il n'attend pas qu'on fasse le plus grand jeûne qu'on ait jamais fait, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça qu'il attend. C'est notre cœur, la disposition de notre cœur. Et encore une fois, j'avais ce verset, non, je crois que je ne l'ai pas mis, mais vous savez, quand David a péché, justement, il avait ce péché d'orgueil, et il a été jugé, et il a choisi, je crois, 3 jours où l'ange de l'Éternel a tué des personnes. Et à un moment donné, David, il se repent et il dit « Mais Seigneur, mais je te demande pardon, c'est moi qui ai fait cette faute. Arrête, je t'en prie, arrête cet ange qui est en train de tuer, arrête-le. » Et il va sur l'air d'Aravna, donc c'est le prénom de quelqu'un qui s'appelle comme ça, et, parce que l'ange est apparemment à cet endroit-là. Et il lui propose de... le gars lui dit bah, « Qu'est-ce que tu viens ? Je veux offrir un sacrifice. » Le gars lui dit bah, « Je te donne le champ, les bœufs. » Et David, il dit « Non, non, je n'offrirai pas à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Voyez, et dans le choix de votre jeûne, Les amis, ne jeûnons pas en faisant OK, j'arrête de manger des cracottes, quoi. D'accord? Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est. En fait, il y a quelque chose qui doit nous coûter. Je ne vais pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Ok, David, il avait ce cœur-là. Je veux que ça me coûte quelque chose quand même. Ok, on n'est pas là pour dire, ben, je vais incliner mon cœur. Voilà, il était repentant, David. Pardon pour mon orgueil. Pardon, et je veux offrir cet holocauste. Mais il voulait offrir quelque chose qui lui coûtait. Donc, voilà, humilions-nous, les amis. C'est plus que l'heure, donc je m'arrête. Humilions-nous, enlevons nos vieilles plumes. C'est le temps de passer et de rentrer dans cette semaine de jeûne en donnant à Dieu quelque chose qui nous coûte et en prenant ce temps pour se dire, replacer Dieu au centre, replacer Dieu au centre, faire ce qu'il nous demande, lui obéir enfin, et aussi faire le point par rapport à notre péché. Voilà. Que Dieu vous bénisse, les amis. Seigneur, je te prie pour toute cette semaine qui commence et on n'a rien à prouver à qui que ce soit. On veut se placer seul devant toi. Tu dis, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans le secret. Et Seigneur, on veut être vrai devant toi. On ne veut pas avoir des artifices ou quoi que ce soit, mais vraiment, on veut être vrai devant toi. Et Seigneur, on veut s'humilier. Comme c'est ce que tu nous montres avec Jésus, avec tellement de personnes qui se sont humiliées dans la Bible pour voir ta gloire. Et Seigneur, on veut entrer dans ce jeûne en nous aussi nous humiliant et en cherchant la volonté, ce que tu veux faire de notre vie, ce que tu veux nous montrer, tout ce qui doit tomber, tout ce qui doit s'arrêter maintenant dans nos vies. On te prie, Seigneur, que tu puisses faire ta volonté, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Amen.